très vive, hein, parce qu'on est entre la fin du 19e, début 20e siècle, hein, qui est la grande époque de naissance de la modernité, hein, avec l'impressionnisme, surtout le post-impressionnisme et tous les mouvements qui vont suivre, jusqu'au cubisme compris. On arrive donc juste après ça, et on est avant les mouvements d'avant-garde contemporaine, finalement, donc cette série de 50 ans qui correspond finalement à l'entre-deux-guerres et à l'immédiate après-guerre mondiale, et d'une période très faste où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vous rappelez qu'on a déjà labouré pas mal, hein. On a regardé toute la question de la figuration, on a travaillé dernièrement sur le surréalisme, on a vu également le pop art, hein, qui trouve ses racines dans le dadaïsme et qui se développe durant toute cette période. On a travaillé sur un médium particulier qui est la sculpture. On a déjà pu voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et que dans ces thèmes que j'ai choisis pour vous faire décortiquer cette période, on a vu à quel point tout cela était très divers. Hein. On l'a vu la dernière fois, hein. Le surréalisme, c'est pas un élément un peu monolithique. Il y a des surréalismes, mais finalement, au niveau de la figuration, ah, c'est encore plus foisonnant, ainsi de suite. Et vous le savez, cette séance-ci, la dernière, est consacrée à un domaine qu'on n'a pas finalement tellement abordé, hein, encore que ces questions sont très proches et perméables les unes des autres, qui est la question de l'abstraction, chose qu'on n'a pas du tout pour l'instant évoquée, si ce n'est de manière un peu allusive quand même. Rappelez-vous tel Miro la dernière fois qui était encore figuratif, mais quand même qui jouxtait avec l'abstraction, etc. Donc aujourd'hui, on va vraiment se consacrer à ce domaine-là. Et tout comme pour les autres domaines qu'on a vus, on va voir qu'il n'y a pas une abstraction simple et massive, qu'il y a des abstractions. Et j'ai conçu ce cours, cet atelier, de façon à ce que, dans un premier temps, je vais vous passer une 26aine de diapos évoquant toute une série d'artistes, tous différents. On va les voir une fois, puis une deuxième fois. On va balayer cette série de diapositives. Et je vous montrerai après, autrement dit, regardez-les bien, hein, vous les regarderez à deux reprises, donc il faut voir que ça imprime, hein, parce que après, je vous demanderai un peu quelles sont les grandes tendances, les familles d'abstraction que l'on peut voir à l'intérieur de la série que je vous ai concoctée. Hein. Bien entendu, on ne s'interdira pas aussi d'essayer de trouver, parce qu'après on repassera toutes les diapos, on ne s'interdira pas d'essayer de trouver les auteurs de ces œuvres-là. On a vu certains les trouver très facilement, d'autres, ça peut être plus difficile. Donc, je vais vous montrer une première fois en balayant ces 26 diapos, et après, on en reparle, on les repassera pour essayer de les analyser un peu plus. Puis, dans un deuxième temps, ben, on ramassera les copies, puis on verra quelles sont les œuvres en question. Ça vous va? J'ai à dire que je les ai, dans ce diaporama, sélectionné en les classant de manière chronologique, donc on va aller du début de la période jusqu'à la fin. Ça va nous permettre de balayer tout ce milieu du 20e siècle. C'est bon ? Alors, on commence par la première partie et on va essayer de balayer ça. Ça n'est pas une œuvre, hein. Encore que. On a vu des choses un peu différentes. Voilà, alors on va commencer. Je vais peut-être m'asseoir parce que, après tout, c'est pas la peine que je. Voilà. Donc je vous les passe une première fois. Vous voyez, là, je cache pas, non ?
Non, ça va.
Voilà, donc je vous passe les 26 œuvres d'un coup. Dans certains cas, il y a les signatures, donc je pense que vous devriez reconnaître parfois. Voilà.
Il y en a des connus,
il y en a des moins connus. Alors, le jeu étant pas simplement d'essayer de reconnaître des artistes, c'est un élément,
mais de voir quelles sont les grandes tendances des abstractions que l'on peut définir. Hein. Il y a finalement plusieurs types d'abstractions, je crois qu'on le voit assez bien finalement dans le diaporama. Ce serait intéressant d'essayer de les définir après. Je vous repasse donc tout, mais en sens inverse, hein, pour revenir au début, bien entendu. C'est bon ? Prêt ? Eh bien, on y va. Alors maintenant, je vous écoute.
Ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie de dégager, à travers ce petit cocktail que vous avez concocté, les grands domaines de l'abstraction dans cette période qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous pourriez souligner comme ligne de force de la peinture, hein, abstraite dans ce milieu du XXe siècle ?
La forme
géométrique. Alors, il y a évidemment des questions autour de la géométrie. Il y a effectivement des œuvres très géométriques. Hein,
et donc le... Surtout pas géométriques.
Oui. Voilà.
Alors, effectivement, il y a des œuvres, en effet, qui, au contraire, hein, ne veulent absolument pas travailler l'idée de la géométrie. J'ai entendu aussi une autre...
La couleur.
Il y a la couleur, qui est évidemment un élément parfois très, très important.
Hein. Parfois, que le noir et blanc.
Pardon.
Parfois que le noir et blanc.
Aussi, oui.
Ce sont deux couleurs aussi.
Oui, alors.
C'est pas des couleurs.
On appelle ça plutôt des valeurs que des couleurs. Hein. Mais certains vous diraient, d'ailleurs, l'un de ceux que j'ai cité vous dira que c'est une couleur. Donc, je vais pas m'aventurer sur ces périglissants. Donc, effectivement, oui.
Dans la géométrie, il y a les maillages. Il y a pas mal de maillages.
Oui.
Dès le début, comme si c'était du textile.
Oui. Oui. Donc, il y a le côté orthonormé, quoi. Oui.
Il y a des choses très en ligne.
Oui. Oui. Oui, ça rejoint un petit peu, d'ailleurs, ce qu'il vient de dire, effectivement, des choses très organisées. Laissez-moi la symétrie, la géométrie. Enfin, la géométrie, puisque la symétrie, donc la ligne, le maillage, etc., c'est un des grands thèmes. Hein, on a vu hein, de ça. Et la question de la couleur vers l'un est souvent liée à l'autre. Hein. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a peut-être une grande famille d'œuvres, effectivement, très géométriques, une grande famille d'œuvres qui ne le sont, j'allais presque dire, surtout pas, et que dans les deux cas, la couleur se joint à la géométrie ou à la non-géométrie pour créer quelque chose. Des œuvres très colorées géométriques, des œuvres très colorées pas du tout géométriques.
Mais même dans les couleurs, il y a deux familles. Il y a une famille où elles sont très fortes,
oui.
Et mono.
Ouais.
Et les autres où c'est
gris. Absolument, ça c'est important aussi, effectivement. Il y a des couleurs passées par aplat, oui. Qui sont des couleurs, et vraiment des monochromes, ça comme les autres, hein, et vraiment pas aplat. Puis au contraire, des couleurs avec des nuances, foncé au clair dans une seule et même couleur, il y a des ombres, il y a des volumes, des reliefs, etc. Donc il y a effectivement les deux types de choses, hein. Oui, absolument. Donc effectivement, on pourrait finalement résumer, si je vous entends, hein, l'abstraction comme étant un choix donc, de non-figuration hein, qui privilégie soit la géométrie, soit pas la géométrie, hein, et qui après combine la géométrie et la géométrie avec de la couleur. Et des couleurs qui sont soit par grands aplats, monochromes et très d'un coup, si vous voulez, hein, ou au contraire, des couleurs qui se nuancent et peuvent aller du plus ou moins clair, du plus ou moins sombre, du plus ou moins ombré, que sais-je encore. OK ? Qu'est-ce que vous auriez d'autres choses à dire par rapport à ça? Est-ce que il vous a semblé, ou est-ce que vous voulez qu'on commence d'emblée à regarder un petit peu des choses
pour... Il y a quand même... Ah bon, alors moi, je suis... Ça peut être très bien ce que je vais dire, mais il y a quand même une ou deux œuvres qui, pour moi, sont plus de la provoque qu'autre chose.
Alors ça, c'est... Non, ce que vous dites est important et intéressant. C'est-à-dire qu'il faut absolument parler de ça, parce que ce que vous pointez là, c'est quelque chose qui, au moment de l'apparition des œuvres, a pu être discuté, hein. Donc cette idée de la provocation est une idée qu'il faut absolument évoquer, si vous voulez, hein, quitte à la partager ou pas d'ailleurs. Hein. En tout cas, la vider est importante, et l'aborder c'est très important, effectivement. Hein. Vous pensez à quelle œuvre, par exemple?
Celle qui est toute jaune, le tout jaune, le tout jaune. Ouais. Il y a deux carrés là. Un carré.
Des carrés les uns sur les autres.
Un sur l'autre, et qui sont presque de la même teinte.
Ouais. Donc pour vous, ça a l'air plus de la provocation que de l'attitude artistique, je dirais.
C'est de l'expression.
Pardon?
C'est de l'expression. C'est de la provocation pour certains, mais ça peut être de l'expression pour vous.
Ah oui, oui. Après, c'est. Enfin,
c'est ce que vous nous avez appris.
Ah, je vois que ça influe. Ah, donc ce que je fais ne sert pas à rien.
Ils sont trompés derrière.
Oui.
Voilà. Et dès l'instant où vous nous les montrez, il y a moins de provocation, ça veut dire qu'il y a une officialisation.
D'une certaine manière, oui.
Donc voilà. Ils oui, sont c'est... rentrés dans les musées. Voilà.
Ah oui, ces œuvres-là appartiennent à l'histoire de l'art.
Oui, voilà. Donc, même si la provocation, ça reste minime, parce qu'il y en a plein.
Oui. Oui, de toute façon, ce que je vous disais notamment une fois précédente, il me semble, parce que je sais plus très bien ce que je dis, en même temps, hein, mais c'est que, après tout, une œuvre d'art, c'est ce qui est déclaré comme tel. C'est une œuvre faite par un artiste. Après, on aime, on n'aime pas, on estime que c'est bien ou pas, la pauvre voix. À partir du moment où un artiste dit je suis un artiste, je fais une œuvre d'art, mais il fait une œuvre d'art. Voilà, il n'y a même pas à discuter. Après, encore une fois, on apprécie ou pas, on estime que c'est intéressant ou pas, mais voilà. Et je crois que je vous donnais l'exemple du boulanger. Un boulanger dit « je suis boulanger », il fait du pain, on l'aime, on l'aime pas. On dit que c'est du bon pain, du pas bon pain, qu'il se fout du monde ou pas, mais il fait du pain. On ne sait pas. Pas plus qu'un artiste, il dit « je suis artiste, et je fais des œuvres d'art ». Voilà. Après, on en discute. Et on aime ou pas. C'est la même chose. L'artiste n'est pas une sorte de Deus. Il n'y a pas les artistes, Dieu, si vous voulez, puis de l'autre, la société. L'artiste, il est en société, il est artiste comme d'autres sont boulangers ou...
Il se déclare artiste.
Et se déclare artiste. Tout comme d'ailleurs on se déclare, on dit moi je veux être boulanger, et puis bah, on fait ce qu'il faut pour être boulanger, et puis après on peut être boulanger. Parce qu'on n'est pas boulanger comme ça, il faut s'engager dans la boulangerie, c'est ce que je vous avais pu dire.
Après, ils sont reconnus en tant
qu'artiste. Alors ils sont reconnus, il y en a qui ne sont pas comme ça, qui n'ont pas été au départ, tu vois. Mais disons qu'ils se disent artistes alors. C'est-à-dire qu'ils font des œuvres qui sont dites œuvres d'art. Après, voilà, ils se mettent dans la société en se déclarant artiste. Après, la société dit bah, j'aime pas, j'ai que c'est intéressant ou pas, que ça la provoque ou pas. Voilà.
Parce que la provoque, elle vient aussi du rapport à l'argent, aux ventes.
Bien sûr. Notamment. Oui. Et puis de la démarche, parce que on peut estimer que. Moi, quand j'étais petit, hein, je me rappelle que quand on faisait en classe des dessins, l'injuste problème, c'était aussi du Picasso. Picasso, c'était. Non, les Picasso. Voilà. Et ça voulait dire, c'est. Alors évidemment, sur le coup, j'encaissais, comme peut-être entre vous, puis aujourd'hui, je me suis dit, ben. Si seulement ça m'était parce que surtout c'est tellement bon que voilà. D'ailleurs j'estime que certaines œuvres que j'ai faites en titre étaient effectivement des Picasso et assez réussies.
Et tu n'as pas été reconnu.
J'ai pas été reconnu. Mais bon, vous êtes là.
On pourrait faire une sixième séance.
Bien. Ceci étant dit, on va peut-être commencer à regarder les œuvres. Je crois que c'est peut-être le meilleur moyen d'entrer dans le truc, dans le sujet. Hein. Alors, regardons à nouveau ça. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus?
J'aime.
Ok.
Je sais qui c'est.
Bon.
C'est signé, c'est ancien,
c'est vrai, c'est le côté un peu. Bah c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quoi. Hein. Il y a des couleurs, on a plein, c'est là. Puis on a d'autres qui sont un peu plus. Voilà, c'est ça. Et là, c'est le cas. Il y a des gris qui sont. Enfin, c'est pas des aplats, quoi. Hein. Il y a un côté. Il y a un côté comme ça plus nuancé. Voilà, cherchez-le. Hein.
C'est assez vivant parce qu'on a l'impression que ça.
Ben oui, il y a un côté. En tout cas, c'est pas statique. Hein, c'est, ah, ça peut effectivement suggérer.
On dirait des bandes de tissu.
Oui, oui, voilà, décidément, il y a un côté textile. Textile. Alors, c'est sur toile. Hein. Là, c'est la peinture sur toile, mais il y a un côté effectivement textile.
Hein. Il y a un refrain.
Il y
a un refrain, c'est-à-dire les petites
les fleurs.
Oui.
Et puis, il y a un peu de bleu.
Non, il y a une belle harmonie,
la composition est belle.
Oui, il y a, oui, tu sais que tout va bien. Hein, il y a, c'est une œuvre abstraite, mais qui, j'allais dire, flatte notre vision académique d'une hein, œuvre qui représente quelque chose. Il y a une composition, il y a de la nuance, il y a des petits détails, il y a un certain rythme. Ah, ouf, on est quand même dans quelque chose de présentable. Hein. On dirait une tapisserie. Ah, on a des références. Hein, voilà. Ça peut rappeler quoi, d'ailleurs, sachant qu'on est au début du XXe siècle, là, dans les années 20. Est-ce que ça vous rappelle des choses immédiatement antérieures, peut-être qui...
La Légion d'honneur.
Pardon ?
La Légion d'honneur.
La Légion d'honneur.
Enfin, la Légion d'honneur, mais la médaille.
Ah, le côté. C'est vrai qu'on a l'impression du classement des officiers russes, c'est qu'on est 40, là. Voilà, moi, je pensais à ça.
Un côté impressionniste, quand même.
Un côté impressionniste, vous disiez quelque chose, je crois.
L'art nouveau, un
peu. L'art nouveau.
Oui.
Oui. Moi, ça me fait penser à un truc alors, qui tourne un peu autour de l'art nouveau, mais pas l'art nouveau exactement, enfin. Mais si je vous le dis, on en verra tout à l'heure. Oui, donc vous connaissiez l'artiste, vous disiez.
Oui, mais c'est Kupka.
C'est Kupka. Hein. Kupka, ça me dit quelque chose?
Pas du tout.
Pas du tout. C'est signé en bas, hein, Kupka. Artiste très très passionnant hein, du début du XXe siècle.
Est-ce qu'il a fait d'autres tableaux avec d'autres couleurs?
Ah oui, oui. Toutes les œuvres que je montre là, je vous l'avais dit dès le départ, hein, c'est la plupart du temps le cas pour cette session, enfin, toujours, mais à partir du Musée national d'art moderne, qui a une énorme collection d'œuvres de Kupka. Très très beau truc, notamment ça. Donc oui, il a fait beaucoup d'œuvres avec des tas de formes et de couleurs différentes. Non, moi, ce à quoi ça me fait penser, et d'ailleurs, le nom Kupka, vous... Non. Oui, voilà, on sent que c'est quelqu'un d'Europe de l'Est. Il n'est peut-être pas franco-français. Enfin, on peut s'appeler Kupka, il est français. Mais il vient d'ailleurs.
Ça fait un peu comme Kafka.
Voilà, ça fait penser à... Voilà. Alors, je ne me rappelle plus d'ailleurs exactement d'où il est, Kupka. Bon. Mais enfin, on sent bien qu'il vient de l'Europe centrale. Enfin. Et ça rappelle un peu un courant artistique important de l'Europe centrale à la fin du 19e, début 20e. Ce qu'on appelle la sécession viennoise. Vous savez, pensez à Klimt, par exemple. Hein. Vous avez déjà, vous connaissez le fameux tableau de Klimt, ses portraits, mais qui surgissent de formes complètement abstraites, hein, le fameux baiser. C'est un peu ça. Alors, il manque les visages, mais c'est un peu cette idée-là. Bien, ok. On continue.
Bon, ça c'est terrible.
Là, ça fait partie de ces œuvres absolument géométriques dont vous parliez tout à l'heure, hein, et avec ces aplats de couleurs.
Des couleurs basiques.
Mais savamment associées.
Oui, ouais. Effectivement.
C'est la partie blanche qui est en relief.
Oui, il n'y a que le carré en bas à gauche qui a une espèce d'ombre, assez étrangement d'ailleurs, je ne m'explique pas. Mais bon, voilà.
Un petit sage.
Oui, ça fait partie de ce... Oui. Alors, évidemment, là, l'impression que l'on a n'est pas forcément la même qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, encore une fois, on avait des repères. Hein, une, une sorte de, comment dire, de, cette dimension de nuance, un peu pastel, qui nous rappelle tant la grande tradition occidentale de ses œuvres, un peu comme ça, nuancées. Il y avait une sorte de composition, l'idée d'un mouvement, des éléments, des entités auxquelles se repérer. Là, on est devant des formes monochromes côte à côte.
On est bloqué.
Voilà, il y a une espèce de côté, entre guillemets, blocage. Hein. C'est ça, quoi. Bon. Et alors, quoi, l'idée, quoi, derrière ça?
On est bloqué, on n'a pas d'idée.
Pardon.
On est bloqué, donc on
n'a
pas
d'idée.
Ah, vous n'avez pas
d'idée. Ça fait aussi un peu échantillonnage.
Pardon.
Ça fait un peu échantillonnage de couleurs.
Il y a ce côté-là. Oui.
Les couleurs sont ternes. Est-ce que c'est la reproduction ou si c'est comme ça?
Non, c'est assez comme ça.
C'est de l'huile?
Pardon.
C'est de l'huile?
C'est de l'huile.
Parce que quelquefois, les autres matériaux sont... prennent pas la lumière de même façon.
Ouais, non, non, c'est lui. Alors c'est une œuvre qui a maintenant un siècle là, aussi. Hein. Là, une œuvre qui a son temps.
Je dirais qu'il n'a pas voulu terminer son tableau. Volontairement, il ne termine pas son tableau.
Vous parliez de la partie en bas à gauche. Moi, c'est la raison que j'en ai aussi, d'ailleurs. Mais pour... mais vu l'artiste, ça m'étonne. Mais voilà, je ne l'explique pas trop autrement. Une sorte de... petite, comment dire, des choses en suspens. Voilà. Bon, je ne sais pas, hein, pour ma part, mais ça pourrait. Je l'interpréterais bien aussi comme ça.
C'est une ouverture.
C'est une
ouverture.
On dirait une aération.
Oui, une.
Aération dans le tableau. Enfin, quelque chose de plus. Plus respirer, quoi.
Vous parlez de la partie inférieure gauche aussi, ouais. Quelque chose qui a pour but de, d'ouvrir. D'ouvrir le blocage dont on parlait.
Oui.
Ouais.
Et puis ça donne une certaine force au tableau, cette place vide.
Oui. Oui, par contraste, peut-être, justement. Oui. Ouais.
Et il a fait une diagonale courbe, il n'a pas fait.
Oui, c'est pas géométrique.
C'est la seule courbe. Ouais.
Oui, c'est le seul élément qui ne soit pas orthonormé. Et alors, l'impression que vous avez en regardant ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vous... En regardant ça, vous êtes dans quelle attitude, dans quel sentiment, dans quel mood, comme on dirait en anglais?
C'est pourtant pas fatigant à regarder.
Oui, pas fatigant. Ouais.
Il y a une certaine harmonie. Enfin, les couleurs sont bien choisies.
Ouais.
C'est agréable à regarder quand même.
Ouais. Ben, je crois que vous avez, mine de rien, absolument défini par ces différents termes que toutes deux vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que je crois qu'on est là, évidemment, devant une peinture qui balaye un peu tout ce qu'il y a pu se faire avant, même dans l'œuvre précédente. Hein, on avait de la nuance, une joliesse harmonieuse, la composition. Là, on est devant des couleurs rectangulaires que les autres qui bloquent ces murs. Là, hein, et en même temps, comme dit à l'autre, on est devant quelque chose qui est à la fois léger, reposant, assez serein, finalement. On est devant des formes, des couleurs. La peinture, c'est quoi? Ben, c'est des formes, des couleurs. Donc on a là quelqu'un qui fait des formes, des couleurs. C'est un peu similaire à une manière d'aller chercher la peinture jusqu'au bout, à l'os. C'est-à-dire que, puisque la peinture, c'est des formes, des couleurs, Maurice Denis a dit ça en son temps, hein, à l'époque bien dit, hein, des formes, des couleurs ont certains ordres agencés. Ben là, c'est la même chose, sauf que là, plutôt que de manière un peu, d'ailleurs, traditionnelle, se dire, ben tiens, je vais faire des formes des couleurs en montrant des petites fleurs, des paysages, des personnages, des animaux, il se dit, ben, je réduis les formes des formes, en l'occurrence géométrique, pas d'affect, et les couleurs simples. Le seul affect est, dans le fait que vous disiez un peu tout à l'heure, c'est pas des couleurs primaires très fortes, on est là dans des couleurs un peu entre deux. Hein. Les verts sont des verts pas fou. C'est des verts, voilà, les jaunes, enfin, tout est un peu comme ça.
Les rouges, ça.
Et c'est une peinture qui est cadrée, contrairement à d'autres. Il y a un cadre qui nous enferme.
Ben, y a une espèce de ligne noire ou grise, effectivement. Oui. Alors par contre, c'est une peinture pas cadrée, au sens qu'il n'y a pas de cadre. Il peut y avoir une sorte de ce qu'on appelle une baguette américaine, hein, vous savez, une sorte de gorge autour, etc. Mais il n'y a pas de cadre, enfin, ne mettez pas un cadre doré autour de ça. Ça pas marcher, quoi. C'est une œuvre qui est faite pour être comme ça. Donc, effectivement, l'idée, si vous voulez, c'est de dire, après tout, la peinture, c'est déformer les couleurs. Ok, ben, je vais faire déformer les couleurs. Et en allant jusqu'au bout de ça. Et aller au bout de ça, c'est donc réduire les formes en plus simples, des rectangles, des carrés, et les couleurs en plus simples, des couleurs par à plat. Et pour malgré tout piquer un peu notre habitude d'occidentaux, qui a une vieille histoire de la peinture derrière soi, il y a quand même l'idée d'utiliser des couleurs qui ne sont pas encore une fois des couleurs flashy ou primaires, mais des couleurs un peu entre deux.
Pardon.
Pas
loin des primaires.
Pas loin, mais pas tout à fait quand même.
Ça
voilà.
Me rappelle le
Bauhaus,
le jaune,
le Bauhaus. Alors, ça rappelle absolument Bauhaus. Hein. On est là, d'ailleurs, devant une œuvre de quelqu'un qui a fait partie de cette grande aventure Bauhaus. Vous avez une idée d'un nom ?
Non.
Non. On verra tout à l'heure.
Par rapport à la précédente, ça bouge.
Oui.
Ça évoque un mouvement ou un volume et un volume.
Ouais.
Oui. J'ai toujours pensé à un tissu.
Oui,
toujours
ouais.
Un
tissu. Avec une liaison
et la lumière. Ouais, et de dégrader.
Oui.
C'est le drapeau à damier des courses de Formule 1.
Oui. Ah. Ça fait penser à ça. Fait penser à ça.
Agité par le vent.
Ouais. En fait, c'est un peu la même chose qu'avant, sauf que là, c'est monochrome. Hein. Enfin, si on parle du fait que le gris, c'est du blanc et du noir. Hein. Et puis, si on ne parle pas du brun qui est autour. Hein. Enfin, il y a un côté plus monochrome. Et puis, un côté, effectivement, plus mouvementé. Plus... Puis, le blanc est jamais complètement blanc. Le noir se grisouille. Le gris, quelquefois...
C'est moins rectiligne.
Ah, c'est pas rectiligne. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose qu'avant, mais, j'allais dire, plus romantique. Plus mouvementé. Plus...
C'est les deux.
Aussi, c'est fait là, en plus, si même Barbon, c'est une sorte de toile de jute hein, qui donne une toile, hein, je crois que c'est une toile de jute qui donne un grain, si vous voulez, mais pas forcément dans le côté lisse des œuvres précédentes. Hein. Donc on est un peu dans la même idée, c'est-à-dire d'une géométrisation, mais là une géométrisation qui vient bouleverser, enfin, et qui est bouleversée par un certain affect. Hein, les lignes sont plus droites, les couleurs ne sont plus primaires, ou plus aussi primaires qu'avant. Il y a là une sorte de, comment dire, d'activation, en quelque sorte, du principe un peu radical de l'œuvre précédente.
C'est un demi-deuil.
C'est un
demi-deuil.
Oui, oui. Oui.
Palpable.
Oui, le côté palpable.
On voit de la profondeur.
Oui, oui, oui. Oui, on a l'impression, l'idée du drapeau est pas si mal, hein. On a l'impression d'un mouvement, enfin. Et à votre avis, alors là c'est pareil, l'idée qu'il y a derrière, ça peut être quoi? D'abord, est-ce que vous avez une idée du peintre que vous connaissez? Pardon? Non.
Je pense que ça me dit quelque chose.
Oui, on vous connaissez, il est très populaire. Personne n'écoute. Bon. Et donc, oui, l'idée derrière, à votre avis, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est d'essayer de susciter quoi, de montrer quoi, de dire quoi. Non.
Un état d'âme.
Ouais. Hein, tout à l'heure, quand avec l'œuvre précédente, vous parliez de finalement une sorte de calme, de sérénité. De... Oui. Là, vous ressentez quoi? Le but de l'art, c'est aussi ça, de faire ressentir au regardeur quelque chose. Donc, quand vous voyez ça, débarrassez de tous vos affects d'occidentaux qui, depuis 4000 ans, sont pétris d'histoire. Hein. Ah. Yes. Vous déshabillez, si j'ose dire, et quand vous regardez ça, quelle est votre vision des choses?
Pour moi, c'est l'ombre et la lumière.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Mmh.
Moi, je vois un déséquilibre, je sais pas, parce qu'en fait, je vois pas trop moi, l'aspect tissu, je voyais plus une, je sais pas, une sorte de structure d'architecture avec la perspective grise.
Ouais. Ouais.
Pas, quand j'ai regardé, j'ai vu ça.
Oui, quelque chose d'architecturé.
Oui, voilà. Et du coup, il y a quand même un déséquilibre. des éléments, parce qu'on voit bien...
Oui, comme une sorte d'immeuble un peu branlant.
Des
boules
de pierre.
Oui. Quand vous connaissez l'artiste, c'est votre réflexion est intéressante, effectivement.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a du vent, là.
Oui, bah, c'est notre drapeau de tout à l'heure.
Oui.
Donc, c'est cette espèce d'équilibre instable. Assez bizarre, parce qu'on a là une espèce de trame, mais qui... Donc, une espèce de poésie dans l'instabilité. De stabilité, c'est pas orthonormé, hein, mais en même temps, ça bouge. Donc, il y a une sorte de nuance dans l'instabilité, de déséquilibre dans l'équilibre.
Et renforcé par le cadre autour, marron, qui est pas victime.
Oui. Effectivement.
D'autant plus que la réalisation est relativement simple, parce que c'est toujours les trois mêmes couleurs qui suivent dans le
plan. Oui.
Mais quand même, entre les juste décalé.
Mais quand même, il y a du travail entre ce gris et le blanc.
Oui.
Quand même, hein.
Oui. Non, c'est.
Oui, c'est
moi
des
appelants.
Oui.
Vous savez, quand je me rappelle quand j'étais petit aussi, c'est bon, je ne raconte pas ma vie, hein. Mais quand j'étais petit, je me rappelle que quand des gens voyaient l'œuvre de Picasso, par exemple, ou d'autres, il y a des gens qui disaient, ah, ben, je pourrais en faire autant.
Oui.
Je me disais, bah. Et puis je me dis après, mais bah, ils ont dit qu'ils pouvaient en faire autant, mais j'ai jamais vu en faire autant. Donc en fait, ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Ils disent, je pourrais en faire autant, ils n'en font pas autant. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent, je pourrais en faire autant s'ils ne le font pas? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça ne veut rien dire, cette expérience. Je pourrais en faire autant. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. S'ils peuvent avoir autant, qu'ils le fassent. Pourquoi ils ne le font pas? Ça veut dire aussi que l'art, c'est de la technique. Mais ce n'est pas que. C'est la capacité de pouvoir produire quelque chose que, éventuellement, on s'interdit de faire. Les gens qui disent, je pourrais en faire autant, puisqu'ils ne le font pas, c'est qu'ils s'interdisent de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont un esprit trop encombré pour avoir la liberté de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ils ne peuvent pas en faire autant. En fait, c'est pas vraiment inventé qu'on monte cette tronquille. Vous voyez ce que je veux dire? Pour en faire autant, ça ne sera pas un argument. Qu'ils le fassent. Vous voyez?
Ils n'ont pas les capacités à le faire.
Ils ne sont pas capables. Ah ben, c'est ça. Ils n'en sont pas capables. Ce qui veut bien dire qu'il faut une capacité pour le faire. Une capacité technique, il faut savoir utiliser la peinture, la toile, etc. Mais c'est une capacité intellectuelle, psychologique, et qui ne tombe pas du ciel, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Un artiste, c'est pas simplement quelqu'un qui est un fabricant d'un objet, qui sait faire du formica. C'est aussi quelqu'un qui est capable, chacun son métier, hein, qui est capable de dire, de proposer une forme plastique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas que savoir en faire autant techniquement, c'est aussi savoir en faire autant, j'allais dire, artistiquement, intellectuellement. Et ça, voilà. Donc savoir en faire autant, c'est pas que technique.
Mais quand on ne rentre pas dans l'œuvre et qu'on ne comprend pas, c'est aussi une façon de se dédouaner et de trouver...
Oui. Encore que je ne sais pas s'il y a à comprendre.
Non, mais on a été habitué à
nous dire qu'il fallait.
Il fallait comprendre. Et à certains moments, on en a déjà parlé. Quoi, de comprendre une œuvre.
Alors, voilà, le mot comprendre...
Dans la démarche aussi.
Alors voilà, c'est ça. Voilà. Parce que comprendre, face à ça, il n'y a pas à comprendre. Il y a à comprendre... En essayant de savoir, effectivement, qui est l'artiste, quand il l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il a fait après, qu'est-ce qui se fait à l'époque, quels sont les événements politiques, socio-économiques de l'époque. Ça, c'est important. Parce qu'on refixe l'œuvre dans un contexte. C'est ça ce qu'on fait. Hein. Nous, on fait l'histoire de l'art. C'est qu'on fait ça. Hein. On essaie de voir comment les choses s'organisent. Hein. Et par contre, comprendre précisément ce qu'on a sur l'écran, non. On comprend ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est une trame équilibrée mais déséquilibrée, plus ou moins monochrome, mais pas tant que ça. C'est quelque chose qui évoque aussi bien le mouvement, le vent, que une sorte de bâtiment qui serait pas très stable. Enfin voilà, vous voyez, on comprend les affects que l'on a et qu'on plaque sur l'œuvre. Hein. La compréhension, c'est soit ce que nous on ressent, voilà, c'est le ressenti, soit le contexte. L'histoire de l'art qu'il y a. Mais il n'y a rien d'autre à comprendre, entre guillemets.
Oui, oui.
Voyez, hein, on regarde la suivante. Oui, allez-y.
Il y a une sorte de, pas de piège, mais de jeu. Parce que c'est un peu comme, vous savez, en psychologie, les portraits de vieilles, de jeunes.
Oui.
Et là, c'est un peu la même chose, parce qu'il y a des fois, on peut voir des carrés,
on
peut voir autre chose.
Quand on commence à regarder, etc., et surtout si vous avez ça en permanence devant vous, enfin, devant vous, chez vous, c'est là, c'est comme, je sais pas si vous avez certainement fait l'expérience avec des aurores, vous êtes chez vous, hein. Le fait de les avoir brillants sous les yeux, de passer devant, parce qu'on est en train d'éplucher une pomme de terre, et qu'on regarde, parce qu'on parle le matin à son boulot, et qu'on pense au sac, et qu'on voit, parce qu'on passe un week-end à bouquiner, et puis qu'on a cette œuvre sous le nez. Le rapport aux œuvres est aussi quelque chose qui passe par cette espèce de, comment dire, de proximité avec une œuvre d'art qui fait qu'on la voit différemment, on la dompte, elle vous dompte, on la malaxe, on la. Ça, c'est. Et ce genre d'œuvre, mais toutes les œuvres, hein, c'est ça. C'est des œuvres qu'en permanence, on interroge et qui vous.
C'est un kaléidoscope, finalement.
Oui, il y a de ça. On est en dialogue avec. Ouais. Ouais, ouais. Effectivement, on peut. En regardant bien et en revenant et en la re-regardant, on voit des choses au fur et à mesure. Allez. Absolument, ça fait penser à du dessin industriel.
Oui, oui, laboratoire aussi.
Laboratoire.
Devant locomotive.
Oui, oui. Il y a toutes choses qui nous entourent. Hein. Mais qu'on s'interdit de trouver artistique. Parce qu'évidemment, il ne faut pas être entouré d'art. Hein. Semblant se dire, l'art est une part. Donc, on vit dans le part, et l'art, c'est réservé aux démiurges, etc. Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on vive dans l'art. C'est quand même trop triste. Si on vivait dans la beauté, franchement, c'est drame. Autant vivre dans la mocheté. Donc, ce qui est quotidien est moche. Bon, heureusement, autrement dire, c'est de l'art. Ça ne va pas. Vous savez, rappelez-vous les pop artistes. Ils ont essayé exactement de nous démontrer le contraire. Que la réalité pouvait être belle. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on s'interdit de trouver la réalité belle? On est vraiment cynique. Il y a l'art, ça c'est pour les dieux, les riches et tout ça, et puis le reste, pour nous. Et nous, on doit être dans la mocheté. Eh ben non. Les gens du pop art, ils ont dit, il y en a marre. Un poste de radio, un frigidaire, ça doit être beau. Pourquoi est-ce que ce serait pas beau? Pourquoi est-ce qu'on s'en fait, en tout cas, ça pas beau? Enfin. Pas de raison. D'ailleurs, quand vous êtes dans un musée archéologique, vous tombez en paroison dans des tas d'objets communs qui sont les clones de notre frigidaire, mais qui ont 2000 ans et qu'on trouve formidables. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 2000 ans est formidable? Ce qui est contemporain ne l'est pas. On n'est pas lui, c'est complètement n'importe quoi. Donc, effectivement, vous avez raison. Ça ressemble à un dessin industriel parce que c'est magnifique, les dessins industriels. Vous avez déjà regardé les dessins industriels? C'est extraordinaire. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est des épures. Alors, il y en a d'extrêmement compliqués, il y en a de très très simples, mais c'est très beau. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à trouver ça beau? Vous voyez? Et donc vous avez raison, ça fait penser à des singes, ça fait penser à des éléments de capsules, ça fait penser à des éléments de locomotive, ça fait penser à tout ça. Parce qu'après tout, ça peut être beau. Et voilà, c'est ça le mieux des artistes. Et ne nous interdisons pas de voir les choses belles. La salle gourmet peut être belle, pour tout. Pas simplement une série de carrelage. À regarder, il peut y avoir des choses intéressantes et belles. Pourquoi se l'interdire? C'est ça que nous disent les artistes, vous voyez. Et c'est vraiment ça que le XXe siècle voulait faire. Une idée de l'auteur? Non?
Je tente, Kandinsky?
Non. C'est pas, mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin.
Du mouvement et du volume, vos personnages.
Un côté très volumé. Oui, on voudrait peut-être y voir, si on tient absolument à se rattacher à la réalité, on pourrait y voir un personnage, mais est-ce que c'est nécessaire?
Non.
Peut-être pas. Hein. C'est vrai qu'on a envie de voir ça, on se dit, tiens, là. Ou même des objets. Oui. Vous voyez, on pourrait être des objets. Mais bon, après tout, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on a forcément à se raccrocher aux branches de la réalité? Autant aller voir des peintures figuratives dans ces cas-là. Hein. Mais c'est beau. C'est rien d'autre que ce que c'est. En fait, c'est la même chose que la trame de tout à l'heure, c'est le deuxième tableau, là. Sauf que là, au lieu d'être orthonormé, c'est pas du tout orthonormé. C'est des aplats. Voilà.
Et avec toutes sortes de formes.
Pardon ?
Avec toutes sortes de formes.
C'est ça. Les carrés ou rectangles sont devenus des formes diverses et variées. Donc voilà, on ne voit que la forme. Finalement, on peut jouir de ces formes diverses, avec des couleurs diverses. Le propos, il est là.
Les couleurs sont très rabattues, quand même.
Oui.
Il n'y a pas de couleur franche.
Non.
Non, mais ça fait une belle harmonie.
Oui, oui. Oui, oui. Puis après tout, pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'aimer un bouquet de fleurs avec un vase puis une trois tours de sol, et de ne pas aimer ça? Vous voyez, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. On se l'est interdit. Et ce que nous, ces artistes, depuis plus d'un siècle maintenant, hein, l'abstraction, ça date de plus d'un siècle en arrière. Hein. Ce que disent ces artistes-là, c'est cessons de voir dans la réalité uniquement la représentation de la réalité, la possibilité de l'art. Vous voyez ce que je veux dire ? L'art peut ne rien représenter. D'ailleurs, si on regarde l'histoire de l'art, on voit que depuis les temps les plus anciens, les choses qui ne représentent rien, ou qui représentent des choses de manière complètement olé-olé, hein. Même à l'époque du paléolithique, on parle la fois dernière. Les œuvres paléolithiques, on se dit, c'est quoi ça, hein. Ben voilà. Parce que l'homme s'est jamais dit, l'art doit représenter la réalité. Et quand ça représente la réalité, quelquefois il a des formes. Rappelez-vous les surréalistes, et même les autres sur la figuration, hein. Où quelquefois on était quand même loin de la réalité. Donc en fait, il n'a jamais été dit, personne ne l'a dit, même pas Dieu, l'art doit représenter la réalité. Ça, c'est nous qui nous sommes dit ça, pour cadrer l'esprit. Mais au XXe siècle, on est libère aussi. Et ça donne des choses comme ça. Alors après, on aime, on n'aime pas. On n'est pas obligé non plus d'aimer forcément toutes les œuvres abstraites. Mais par contre, il n'est pas interdit de s'autoriser à les aimer. C'est ça que nous disent ces artistes. Et je crois que ça, c'est une œuvre qui, justement, permet bien d'entrer là-dedans. Vous voyez, c'est un peu moins rond que ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Mais il y a une composition des douceurs qui nous permettent peut-être de nous dire, tiens, finalement, entrons dans l'abstraction. Une idée d'un nom.
Polyakov.
Ah, c'est une bonne idée, mais c'est pas. Là.
Delaunay.
Ah, voilà. Delaunay.
Monsieur ou madame?
Oui, voilà.
Là, c'est madame. Monsieur. Ça pourrait être madame, hein, parce que les deux ont travaillé beaucoup ensemble. Là, madame a très vite été dans des domaines, d'ailleurs très passionnants, il y a une grande exposition à Paris sur elle, il n'y a pas si longtemps, hein, dans des domaines autour des spectacles. Elle s'intéressait beaucoup, en gros, à la liaison art et spectacle. Donc, elle a fait énormément de décors, de costumes, de choses comme ça.
Elle a fait des tissus.
Donc, elle a beaucoup travaillé. Une des choses qui l'intéressait, elle était d'origine russe d'ailleurs, hein, ce qui n'est pas un hasard. Hein. Je parle des Russes normaux, je ne parle pas des Anglais, des Russes normaux, les vrais, ceux qui comptent, hein, ceux qui nous intéressent. La culture russe, c'est une culture qui joint beaucoup l'art et, on va dire, que j'appellerais les arts du quotidien. Vous voyez, il y a la dimension dans la culture russe de l'artisanat, par exemple, est énorme, et la frontière est très poreuse. Hein. Voilà. Et donc, Sonia Delaunay, c'est ça. Il fait que là, passe, donc, elle fait des tissus, parce que, bah, voilà, il n'y a pas de frontières. Il y a beaucoup. Et ça, là, c'est lui. Hein. Alors, qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Là-devant?
Beaucoup de courbes. Oui, de mouvements.
Mouvement.
Beaucoup de mouvements.
Fantastique. Ouais. Une dimension un peu fantastique. Hein. On jouxterait presque une certaine peinture surréaliste, quelque part.
Ça fait penser à des manèges.
Ça fait penser aussi à ça. En tout cas, ça tourne, ça bouge. On est entre le Spoutnik et le manège, effectivement.
Ça fait un peu technologique. On parle
oui.
Une série de microscopes.
Absolument. Il y a un côté techno, hein. C'est vrai. Et en fait, ça fait beaucoup penser à ces artistes italiens du début du XXe siècle. Hein. Vous savez, qui ont beaucoup travaillé autour de ça. Le nom de ce mouvement échappe à l'instant, je vais vous le dire.
Les futuristes.
Les futuristes, merci. Les futuristes italiens, hein, qui travaillent, là, Severini, etc., hein, qui travaillent sur justement l'idée de la vitesse, etc. Les futuristes adoraient la bagnole, les machines, les avions, etc. Donc ils ont fait plein de choses autour de ça.
C'est vrai qu'il y a une forme d'avion avec la roue.
C'est vrai.
Ça fait l'hélice devant.
Hélice, absolument. Oui. Et donc, voilà, c'est, si vous voulez, ces gens qui croient dans le progrès, le XXe siècle amène, la science, la machine, etc. Il ne faut pas tourner le dos, il faut y aller. Il y a une fascination pour ça. Hein. Une fascination qui va vers le progrès. Hein. Les Delaunay étaient des gens qui s'ouvraient à l'avenir. La première guerre est passée. ouais, allons vers le progrès, ce que le XXe siècle va nous offrir. Hein. On a été un peu touché après, mais voilà, c'était quand même dans les années 30, la grande idée, une ouverture. Hein. Les Dolmens ont fait notamment pas mal de choses pour les expositions universelles, hein, les grands décors. Donc voilà, c'est tout ça, effectivement, vous avez bien vu, le mouvement, puis une certaine, un certain progrès vers l'avenir. Hein. On va vers l'avenir meilleur, techno meilleur.
Et puis l'élément devant est en couleur beaucoup plus vive, alors que le fond est plus pastel.
Oui, 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 oui.
Cette coupure par cette oblique.
Oui. Oui. Celle-là, ouais.
Non, là, de tous les ronds.
Ça, oui, oui, absolument. Ouais.
Et puis là, on n'est pas enfermé dans la toile, il y a des lignes.
Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Non, là, ça bouge, c'est ouvert, c'est très... Très bien. Suivant.
Non, on n'est pas fermé dans la toile.
C'est très poétique.
Très poétique, oui. Je trouve aussi.
Il y a de la calligraphie.
Oui, une sorte de calligraphie. On a besoin d'un alphabet hiéroglyphique.
Ou damier.
Pardon ?
Un damier.
Un damier. Avec effectivement des hiéroglyphes dans chacune des cases. Et un côté ludique, un jeu d'échecs, par exemple, de dames, de ce que vous voulez.
Un rébus aussi.
Oui, un côté presque drôle, je trouve aussi.
C'est très fin.
Oui. Là aussi, il y a ce genre d'œuvre qui. Vous avez ça chez vous, vous regardez ça en permanence, et à chaque fois l'esprit va bien. Voilà. Et puis vous regarderez telle chose différemment chaque jour, parce que vous n'êtes pas dans le même. On a donc l'espèce de catalogue de possibles. C'est autant de petits tableaux d'un côté des autres.
Ah ouais, mais ça fourmille de détails.
C'est autant de petits poèmes, et là ils coulent les uns côté des autres, et qui changent chaque jour, parce que chaque jour on n'avait pas la même vision des choses. Donc c'est une espèce d'œuvre sans fond, je trouve aussi. Hein. Une poésie extrême.
On peut le tourner de 10 sur 2, ou 10 sur 3.
Pourquoi pas ?
Oui. Pourquoi pas ?
C'est de la peinture ?
C'est de la peinture.
Oui.
Vous avez une idée ?
Kandinsky.
Exact. C'est de Vassili Kandinsky. C'est intéressant parce que... j'avais choisi ce que ne dit personne à le reconnaître. C'est raté. Parce que Kandinsky, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé la couleur. Et donc chez Kandinsky, on voit plutôt presque à l'image de l'année d'avant, hein, des choses très explosées,
une espèce
de grande couleur encore plus, comment dire, libre que de l'année d'ailleurs. Hein. Et voilà, donc ça, c'est une œuvre qui n'est pas très caractéristique de lui. Mais alors, il a aussi travaillé dans le cadre du Bauhaus, Kandinsky. Hein. Et puis, vous savez, c'est un des. Il est considéré, pas comme les hommes, mais comme l'un des inventeurs de l'abstraction, quand même. Hein. En fait, il y en a plusieurs. Certains disent c'est lui, d'autres pas tout à fait. Bref. En tout cas, c'est un de ceux qui fondent au début du XXe siècle, avec d'autres, dirons-nous, ce que c'est que l'abstraction. Et là, ce qu'il y a de très beau, c'est effectivement la dimension hyper poétique. Parce que ces petits signes que vous voyez là, on les retrouve, mais en couleur, dans tous ces grands tableaux.
Oui, oui, oui.
Au musée de Vézelay, vous savez, à Vézelay, il y a le musée Zervos. Hein, Zervos, c'est un grand critique d'art. C'est lui qui a fait le catalogue de l'œuvre de Picasso, par exemple. Hein. Et au musée Zervos à Vézelay, il y a une jolie collection d'art, enfin d'œuvres d'art, collectionnées par Zervos lui-même. Il y a un très beau Kandinsky, mais qui est que un des carrés, si j'ose dire. Hein. Mais qui est très beau, qui est aussi noir sur blanc. C'est pas un Kandinsky habituel, mais c'est un peu comme si on avait découpé un de ceux-là et qu'on avait gardé. Donc c'est un Kandinsky un peu atypique, mais pas tant que ça, parce que ses signes sont ceux qu'on retrouve dans ses œuvres habituelles. Bon.
Mondrian.
Ça, c'est... On ne peut pas passer à côté, hein. C'est Mondrian. Hein.
Couleur primaire.
Couleur primaire. Tram.
On dirait un tissu.
Il y a un côté tissu.
Il y a aussi un côté gris sur deux épaisseurs.
Gris sur deux épaisseurs, absolument.
Trois même épaisseurs.
Et alors ?
Alors, c'est de la circonflexion.
Pardon ?
Il y a de la profondeur.
Oui, une certaine profondeur, si on veut.
Un foulard, voilà.
Oui, encore il y a des choses qui passent dessus, dessus. Il y a le côté chaîne et trame. Hein.
Un foulard, une nappe.
Il y a un côté nappe.
Un foulard.
Ou foulard. Mais je pense que vous êtes tous comme moi, moi aussi, quand j'étais petit, encore une fois. Hein. Quand il y avait des nappes, c'est sur le. Vous savez, il y a souvent des nappes et. Je ne sais pas vous, mais moi, je passais des heures à regarder justement ces traits, etc. Je trouvais ça extraordinaire.
Mais toi, toi, mais pas forcément nous.
Eh ben voilà, parce que vous interdisez le bord de l'art. Enfin, libérez-nous. Moi, j'étais fasciné de voir ces nappes avec des traits dans les deux sens, surtout que le fait qu'on pose une assiette, le fait qu'on ne voit plus qu'un morceau, on l'enlève. On est, vous avez des ronds avec des cartes.
Enfin, il fallait symétriser l'assiette aussi.
Aussi. Donc, voyez, vous pouvez jouer, c'est extraordinaire. Et finalement, c'est un peu ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que vous, quand vous voyez ça, ça vous. Vous ressentez quoi? Votre mood. Le mot anglais n'a pas trop d'équivalent français. Ce que vous avez à l'intérieur, c'est quoi?
Heureusement que c'est en couleur,
hein,
parce que sinon ça fait penser
à
des paroles
prison. Oui. Alors, oui, le fait qu'il ait fait ça en couleur fait qu'évidemment, la volonté n'est pas celle-là, effectivement.
Une cage d'écureuil pour les enfants.
Ouais. Mais à part une cage d'écureuil ou des barreaux, qu'est-ce que ça vous. Si vous essayez de vous abstraire de la représentation, ce que ça n'est pas, hein. Le but de Mondrian, c'est pas de faire un morceau de. Alors ça peut suggérer, mais voilà, si vous.
Ben, il y a quand même une maîtrise du geste.
Alors, il y a une cause de tout ça qui fait la main levée.
Ah, hein. Oui.
Mondrian est quelqu'un alors, qui maîtrise absolument la peinture académique. Hein. Mondrian, au départ, fait des portraits normaux. Voilà. Hein. Et le Mondrian, au départ, c'est absolument totalement académique. Hein. Hein, on avait peut-être fait quelque chose sur Mondrian, une amie ici, non?
Non, on en avait juste parlé.
Parlé. Donc, Mondrian est quelqu'un qui, au départ, fait des choses, je l'ai fait, académiques, des portraits, des paysages. Voilà. Il en vient à ça au bout de 40-50 ans. Hein.
Ces arbres.
Oui, des arbres. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui sait absolument peindre, comme Léonard Vinci, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Le premier, il est pas du tout. Ou s'il fait ça, c'est qu'il a une raison de le faire. Et c'est fait effectivement, donc c'est une maîtrise. Hein. Tout ça est fait comme ça à la main, n'est-ce pas? Ouais, c'est dessiné. Donc il y a une grande maîtrise des mots.
Une grande maîtrise de soi.
Aussi, aussi. Un Mondrian, c'est un Hollandais, hein, donc voilà.
Il y a trois couleurs.
Oui.
C'est la répétition de la même ligne.
Avec le blanc.
Oui.
Répétition du bruit, c'est voilà, c'est des lignes bon, qui se croisent, plus ou moins de différentes couleurs, plus sais-je encore. Et vous avez un ressenti par rapport à ça, vous regardez ça encore une fois, au-delà de la technique, au-delà de la représentation qu'elle peut suggérer. Non ?
On saute d'un truc à
l'autre. Moi, c'est un de mes peintres préférés, alors.
Ah,
Mondrian. Poussin, Mondrian.
Vous avez vu l'expo à Lausanne?
Non.
Ah,
ouais. Moi, c'est un peintre que j'adore. Donc, voilà.
C'est bien qu'il ait fait une ouverture assez large au milieu.
Ouais.
Parce qu'on peut s'y mettre.
Mais celui-là, c'est pas celui qui s'appelle New York.
Regarde dedans.
New York City, oui. New York City. Oui. Alors, les Français ont détesté ça, je tiens à le dire. Hein. Mondrian a fait la majeure partie de sa carrière en France, parce qu'il s'est réfugié en France du fait du nazisme. Et puis, alors, donc, il a créé une grande partie de ses œuvres, sont des œuvres françaises. Hein. Les Français ont tellement détesté ça que la plupart des œuvres sont en France aujourd'hui. Bon, on est très doués dans le genre. Hein. Les Français, c'est en France qu'il y a l'impressionnisme. Tout le monde adorait ça, sauf les Français. Pour Mondrian, c'est-à-dire qu'il a créé en France, les Français ont fermé les yeux. Ça, c'est. C'est le sport national. Surtout, regardons pas ce qui s'y passe, quand ça se passe, trouvons ça nul, et regardons ailleurs. Ça, c'est très typique. Hein. Mondrian, c'est vraiment un artiste qu'on n'a pas su voir du tout. Aujourd'hui, en France, il y a deux tableaux de Mondrian. Celui-là et un autre. Les Français n'ont pas regardé l'art créé chez eux.
Jusqu'à ce que Saint-Laurent s'en empare.
Alors, voilà. Saint-Laurent s'en est emparé. Il avait dans sa collection trois tableaux de Mondrian, mais c'est intéressant de voir qu'il y a quelques années, quand s'est vendue la collection Saint-Laurent, il y avait trois tableaux de Mondrian. Je me suis dit, l'État va en acheter un. Saint-Laurent, on pense tous vraiment au rang brillant. Oui. Et on a pas été foutu dans le GF. C'est-à-dire qu'on continue à être aussi nul qu'avant. C'est fou, ça. On ne regarde pas.
C'est la stabilité.
C'est une espèce de stabilité absolue. Alors, on a un cœur de la vente, un très beau Quirico, superbe, mais ça représente des personnages, c'est sur Alice, ça plaît. Mondrian, non. Alors, c'est absolument lié à un moment fondamental de la création en France, et qu'en plus, Saint-Laurent, évidemment, reprend ça pour faire quelque chose qui est dans le monde entier, hein, un élément fondamental d'évolution de la mode. Eh bien, fin 20e, on n'est toujours pas capable. Début 28, elle n'est pas capable de le voir. C'est étonnant. Parce qu'on est un peu bloqué. Peut-être parce que l'histoire de la peinture en France est tellement énorme et fondamentale qu'on a un peu de mal à se libérer de ces carcans-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et de trouver une sorte de liberté à simplement regarder. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez là la sérénité de quelques couleurs assemblées de manière orthogonale sur un fond blanc. C'est tout. Pour ma part, hein, je trouve ça d'une légèreté. D'une ouverture extraordinaire. Moi, vous mettez un Mondrian devant moi, tout va bien. Je vous dis ça parce que tout ce que vous vous demandiez pour m'offrir, vous m'offrez un Mondrian, ça me ira. Bon, il faudra ajouter quelques zéros sur la chaise. Bon, trait de plaisanterie. Alors,
c'est plus tordu. Il y a du volume.
Oui, volume, ça c'est très important. Ouais.
Couleur très violente.
Oui.
Mais un travail extraordinaire de couleurs, de mariage de couleurs.
Oui. D'ombre, de nuances, là aussi.
Ah, ouais.
C'est, dès le départ, vous aviez bien senti ça, hein, les couleurs peuvent être paraplats, très longs, ou bien au moins il peut y avoir de la.
Des fondus. Là.
C'est ça, des fondus. Ouais. Des fondus. Et il y a du volume, vous avez raison, ça c'est. Je crois que c'est deux choses qui caractérisent ça. Et là, on n'est pas du tout dans la ligne droite et le carré.
Non.
Ça vous dit quelque chose, ça?
Non, Michel, elle ne sait pas, donc.
Ouais.
C'est la spécialiste en parlant.
Donc si Michel ne sait pas, les autres ne savent pas. Non, si. Peut-être que si.
Je
ne
sais pas. Je veux dire, en quoi, là? Si tu ne sais pas, on ne sait pas.
Non, mais vous avez en tout cas dit les deux choses. Vous avez parlé de volume, ça c'est très important pour cet artiste, parce qu'il n'a peut-être pas fait que de la peinture.
Peut-être.
Et puis, très important aussi, ce que vous avez dit sur le côté nuance, etc. Et en même temps, les formes. Hein, vous voyez, il n'y a pas de ligne droite, ou très peu, ou alors elles sont liées à d'autres lignes plus courbes, enfin, des alliances de choses rectilignes, de choses courbes, on ne s'interdit aucune forme.
C'est en trois dimensions.
Oui. Pas étonnant chez ce plasticien-là. Bon, allez. On avance.
Premier,
oui, absolument.
Bah, c'est les formes et les couleurs aussi.
Oui. Il y a effectivement, il y a un côté, les couleurs, il y a un côté terrien.
Ouais.
On a l'impression que le mec qui a fait ça, ou la dame, je ne sais pas, a fait ça, avec des pigments terreux, vous voyez. Et il y a effectivement un côté art premier, comme si on prenait en charge les arts premiers, qui d'ailleurs, si on veut parler d'abstraction, ont inventé l'abstraction en Occident. Hein.
Ouais.
Après tout. Hein. L'abstraction, vous la voyez sur les continents avant la grande aventure, je dirais, de l'art occidental.
On travaille au Canada.
Ce sont ces initiales, le JTG.
Oui.
Pour 44, c'est la date.
C'est l'année.
On dirait.
Donc effectivement, je crois que vous avez tout à fait raison de voir là une sorte de. Finalement, c'est un peu, en art premier, entre guillemets, hein, l'équivalent des choses très géométriques qu'on a vues avant. C'est ce que je veux dire. Un peu comme si, hein, je ne sais pas quoi, moi, un Zoulou ou un Aztèque. Hein,
ou même une peinture d'enfant.
Ou même une peinture d'enfant.
Mais on ne mettrait pas ces couleurs. Non, on ne mettrait pas. Peut-être pas. Mais...
Enfin, mine de rien, c'est en même temps assez, comment dire, assez élaboré.
Ah oui.
Parce que évidemment, ces arts premiers qui portent mal leur nom ne sont pas si premiers que ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, en fait, c'est des choses pensées à par exemple, à l'aborigène en Australie. On avait fait un atelier là-dessus, vous rappelez, il y a des années, qui est un art très élaboré, hein, même si pour nous, il peut sembler un peu.
Moi, je ressens beaucoup de tristesse. Hein,
tout ah oui.
On a l'impression que c'est un peu comme un baraquement, vous savez.
Oui, comment ça s'appelle?
Un bidonville.
Oui, un bidonville, je cherchais.
Oui, je ne sens pas ça du tout.
C'est là aussi, nous, on a une vision des couleurs très occidentalo-centrée. Le marron, le noir, c'est triste.
Ouais, mais bon.
Dieu n'a jamais dit ça, non,
non,
c'est non, on s'impose ça. Et maintenant, on voit du noir. Il a fallu que un artiste que vous connaissez, hein, dise, voilà, dise que le noir, bah, après tout, c'était pas si mal. Pour se dire, bah, tiens, oui, finalement, ça peut être noir et gay. Pourquoi est-ce qu'on se dit le noir, c'est triste, le marron, c'est pas gay? C'est vraiment des idées. Alors,
tout c'est, là, il y a, c'est un peu sale.
Pardon,
c'est un peu sale.
Disons que c'est terrien, je dirais. Ouais, vous voyez,
c'est un joli carrailleux, moi, je
trouve. Oui, c'est ça. Quand, vous savez, quand vous voyez la terre, l'ocre,
oui,
il n'y a rien de plus beau que le carrière. L'ocre, c'est magnifique. Hein. Vous avez ce genre de choses-là, vous voyez, hein, des rouges avec du jaune, etc. Donc,
il
n'y
a pas beaucoup d'épaisseur.
Il n'y a pas de... Non, c'est vrai. C'est vrai.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de lumière dedans.
Bah, oui, c'est ça.
Oui, mais...
Il y a quand même des touches de blanc.
Les belles sont sales.
Oui, mais est-ce que c'est nécessaire dans la nuit?
Ah ben, ouais, d'abord.
Mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui. Non, non, vous avez raison. C'est-à-dire que il n'y a pas... c'est pas comme certains ce qu'on a vu. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de lumière, effectivement. Il y a un côté comme ça assez statique et assez... on pourrait peut-être dire fermé, mais aussi avec des guillemets, pour pas.
Enfin, il y a du mouvement quand même. Hein. Le blanc, là, qui est au centre.
Ouais. Ouais, il y a comme ça.
Il y a la fenêtre qui est certes fermée. Mais...
À droite, ouais. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas un tableau lumineux. Hein.
Non, mais bah non.
C'est clair.
Ce sont des couleurs d'automne, un jour, où le ciel est voilé.
C'est ça. Hein.
Ça peut.
Ouais. Et ça peut être beau. Ah oui, c'est très construit. Très construit. Là aussi, c'est comme Mondrian, on ne peut pas ne pas reconnaître, c'est Jackson Pollock. Alors là, oui. Oui, tchouk tchouk tchouk.
Je mélange, j'agite.
C'est de l'action painting. Hein. Vous avez vu de ces photos hein, qui montrent Pollock en train de peindre. Hein. Généralement, il met une toile par terre et puis il marche dessus, puis il jette quelquefois des fonds de sous peinture. Voilà, il jette.
Ah ouais.
Oui, absolument. Ouais. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est fait avec une part laissée au hasard, mais c'est pas plus tant que ça. Vous remarquez comment, finalement, il y a finalement une composition.
C'est-à-dire que
c'est pas dur à l'écoute, je fais ça, puis allez, basta, je vais me dire. Non, il y a aussi, il y a de la composition, c'est fait dans l'action, il y a du mouvement, c'est fait généralement à plat sur le sol, hein. Mais c'est pas... Il y a le hasard a ses limites, si vous voulez.
Et les couleurs aussi.
Oui.
Voilà.
Oui, oui. Finalement,
il y a quatre couleurs. Hein.
Finalement, c'est très harmonieux.
Il y a trois couleurs.
Oui, c'est très grand.
On pourrait même trouver ça. Ah oui, ça peut être très grand. Ça peut être très grand. On pourrait même trouver ça un peu trop harmonieux. Un peu trop. Joli.
Mais si fin comme ça, comme vous faites, ça devrait déborder.
Mais quelquefois, il recoupait autour. Vous mettez ça sur le châssis qui donc. Ainsi, vous voyez, fini l'œuvre en quelque sorte.
C'est vrai qu'il a peut-être un petit peu abusé de la technique aussi. Hein.
toujours pareil.
On peut le. Ben, moi, je trouve que c'est. Il y a quand même. Bah, on pourrait dire ça de beaucoup de peintres.
Oui, oui, oui. Klein aussi. Klein,
oui. On pourrait dire ça de beaucoup de peintres. Renoir, quand vous allez voir la Fondation Philadelphie au bout du centième Renoir, comme ça vous dit, avoir une indigestion. Hein. Donc, voilà, donc.
C'est vrai qu'il y a un côté facile, donc.
Ben, si moi, je ne sais pas si je dirais ça, parce que Pollock a été finalement le premier à faire ce genre de choses. Voilà. Si c'était si facile, il y en aurait eu avant, quoi. Ou après. Et en fait, ce qui m'étonne, moi, c'est au contraire plutôt l'inverse. Il y a la grande diversité de ce qu'il a pu faire. Avec la même technique, avec la méthode. Et ce qui m'étonne, c'est justement qu'avec cette ligne du dripping, de l'action painting, finalement, on est des choses si variées. Vous voyez ? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse. En tout cas, c'est bon.
Moi, j'utiliserais cette peinture pour illustrer un fait complexe. Je n'ai pas dit compliqué. J'ai dit
complexe. Oui, complexe, oui. Ben, oui, finalement, parce que là, c'est pareil. Hein. Vous pouvez vous abîmer en permanence dedans.
Ça grouille.
Il se passe des tas de choses partout. Si vous regardez, ou regardez, vous pouvez regarder l'ensemble, des morceaux, c'est d'une... C'est un peu comme le Kandinsky tout à l'heure, dans un autre sens. On s'abîme en permanence dans une comme ça. On n'a jamais fini. Gorin, c'est marqué. Vous voulez quelque chose ? Jean Gorin. Ça vous rappelle quelqu'un ?
Je pensais que c'était celui-ci, Mondrian aussi.
Oui, mais effectivement, c'est une œuvre qui fait beaucoup penser à Mondrian, alors qui n'est pas Mondrian. Mondrian n'aurait sans doute pas fait, par exemple, cette espèce de série de petites lignes ensemble. Voilà, le jaune n'est pas un jaune Mondrian.
Et le bleu est très large.
Voilà, c'est pas. Voilà, mais ça, d'ailleurs. Gorin fait toute une série d'œuvres en hommage à Mondrian, je crois que celle-là en fait plus ou moins partie d'ailleurs. Donc c'est pas étonnant. En fait, on a là un artiste qui fait partie de la même famille. Toujours la même idée. Jean Gorin. Artiste là aussi français, connu de tout le monde sauf des Français.
C'est Nicolas de Staël.
C'est Nicolas de Staël. Et alors là, à part le nom, que vous avez bien reconnu, hein. Oui, voilà, si on veut se rassurer, on peut y trouver.
C'est de l'abstrait figuratif.
C'est ça, voilà. Parce que de ça, elle n'a jamais été vraiment totalement abstrait. Mais avec une peinture comme ça, alors évidemment, si on veut se rassurer, on y voit des personnages, mais ça n'a rien d'obligatoire. Hein. Même si, encore une fois, de ça n'a jamais été vraiment abstrait. Il a toujours représenté des choses, mais alors quelquefois, c'est le cas là, hein, bon, on n'est quand même pas loin de l'abstraction. Hein. Je l'ai mis là parce qu'on aurait pu le mettre dans la figuration, par exemple, puisque de ça, il a toujours été figuratif.
Hein.
Mais justement pour essayer de montrer, d'incarner ces passages, ces ponts qu'il y a entre les uns et les autres. Hein. Voilà là une œuvre, si on ne sait pas que ça peut être représenter quelque chose, on sait que de Staël, on pourrait y voir simplement une peinture abstraite. Donc ces ponts-là, je trouve qu'ils sont importants. Hein. Ok. Alors là, c'est marqué, vous allez tout de suite reconnaître.
Ah, mais si, oui.
Ah, c'est perdu, je
vois.
Non. Oui, mais j'ai décidé aujourd'hui d'être sympa.
Pour le dernier jour,
je ne vais pas les traumatiser complètement. Vous avez fait abstrait.
Déjà,
c'est compliqué. Si en plus je mets des petits carrés blancs, ça va être dur.
C'est un coloriage.
Oui, il y a un côté coloriage.
dirais que c'est fait à la craie.
C'est un pastel.
À la craie pastel.
C'est un pastel. C'est un pastel.
Gras. Voilà.
Un pastel gras.
On dirait des petites facto avec des lacs.
Eh bien, vous avez raison. C'est exactement ça. Vous savez, Mendessy est un artiste picard, hein, et pour avoir pas mal fréquenté sa fille, elle nous expliquait que son père a fait comme ça toute une série d'œuvres, parce que, en Picardie comme ailleurs, mais c'est assez vrai en Picardie, vous savez, sur la côte, vous savez, du côté de Saint-Valéry-sur-Somme, hein, quand la mer s'est dégagée, vous avez comme ça une espèce de flaque, et le soleil se... Et ça, c'est la chose qui a, j'allais dire, traumatisé Mendessy. Des petites flacouilles, vous savez, qu'on a avec des reflets du soleil, d'une barque, de je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, et puis il reste un coquillage, enfin. Et Mendessy a, d'ailleurs, ça s'appelle Bête Somme. Et voilà, Mendessy a été complètement à triturer ce motif dans tous les sens. Devient abstraite. Hein. Alors évidemment, là aussi, si on veut se rattraper aux branches de la figuration, on se dit, oh, ben, il y a des petites barques. Hein. Mais c'est un peu plus. Voilà, c'est pas. Pour le coup, Mendessy est un artiste qui lui, a versé dans l'abstraction. Hein. Mais voilà, donc le regard vient de ce qu'il a abstractisé, on peut dire ça, la vérité, la réalité.
Mais une sorte de symétrie, de rythme.
Voilà, oui, oui. Ouais.
On dirait de la craie.
Bah oui, c'est du pastel. Hein. Donc c'est un genre de craie, si on veut. Ouais. Bon, Pierre, le suivant, là, pas de problème. Et voilà. Bon, maintenant, on le connaît. Maintenant, en France, hein, depuis qu'il y a eu quelques expos, un musée, etc., avant, c'était assez confidentiel. Hein. Donc celui-là, vous avez une œuvre assez tôt encore de lui. Hein. Il y a encore du blanc, du marronnasse et du rouge. Hein. Bientôt, il n'y aura plus tout ça. Hein.
Très gestuel.
Ouais, ça reste très gestuel, effectivement.
Oui,
alors moins peut-être que d'autres œuvres plus orthonormées qu'on a vues. Hein. C'est, en fait, celui-là, j'ai un artiste très français, si vous voulez. Hein. C'est pas Mondrian. C'est quelqu'un avec lequel il y a, encore une fois, j'emploie toujours ce mot, même s'il n'est pas juste, mais il y a des notions très romantiques. Il y a l'affect, de la passion, il y a l'intérieur qui sort, si vous voulez. Hein. Chez Mondrian, c'est choc. Il n'y a rien qui sort. Là, l'idée, c'est de montrer un peu si les tripes sont sur la table.
C'est très vertical, quand même.
C'est, oui, c'est vertical. Ça reste abstrait. Il y a quand même quelque chose de structuré. Mais, vous voyez, il y a quand même de l'animant. Si vous regardez, il y a des ombres dans le noir. Il y a d'autres couleurs. Il y a tout un affect. Hein, qui n'est évidemment pas du tout le problème de gens comme Mondrian ou la deuxième œuvre que je vous montre. Donc on voit bien qu'il y a des abstractions hein, très différentes des unes des autres. Ah, là, vous connaissez l'artiste.
Ah bon ?
Ben oui.
Il n'a pas fait que du jaune ?
Non. Non.
Du blanc ?
Non. Pas du blanc un peu. Du bleu, oui.
C'est
clair. C'est clair.
C'est
que le jaune. Mais c'est du jaune sur plein d'autres couleurs. Et ce que vous avez là, c'est pas du jaune. Alors évidemment, nous on voit ça, on dit c'est du jaune. Mais non. Vous avez déjà vu des lacs japonais. Des lacs japonais, il y a une couleur, mais en dessous, il y en a quelquefois 40. Ben là, c'est pareil. Vous voyez du jaune, mais non, regardez, il y a mille petites infections dans le jaune. Enfin, le jaune, il papillote comme les bleus. Le bleu, ce n'est pas du bleu. C'est un bleu vibrionnant. Parce que là-dessous, vous avez du violet, du rouge. C'est comme le lac. Le lac, en Orient, c'est ça. C'est des tas de couleurs dessous les autres. Ça fait que la couleur du dessus, elle vit de ce qui est en dessous, si vous voulez. Et donc, quand on dit le bleu de Klein, oui, mais sous le bleu, vous avez des choses. Le but de Klein, c'est de montrer que ça, c'est du jaune, mais qu'en soit d'autres choses, que le jaune se nourrit, c'est du lac, encore une fois. C'est une sorte de C'est quelque chose qui se nourrit de tout ce qu'il y a en dessous. En fait, c'est un... Alors, c'est pas exactement ce qu'on trouve au Japon des périodes très anciennes, mais l'idée est la même, si vous voulez, une espèce de superposition de choses. Une fois, quand on voit du lac japonais, on voit cette espèce de dureté, ces couches superposées. Quand on coupe du lac, on voit cette espèce de strate. Chez Klein, c'est pareil. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais on est là, pas du tout un jaune, c'est pas le jaune du deuxième tableau que je vous ai montré. Hein. Un jaune beaucoup plus nuancé, riche. Et, en fait, il papillonne en permanence.
Beaucoup de pixels.
Oui, voilà. Ouais.
Je ne sais pas si c'est la même époque, mais il y a le travail de ta pièce qui fait penser aussi à ça. On est devant des tableaux monochromes. Alors, des fois, il y a un trait, des fois.
Oui, ta pièce, je verrais plus gestuelle que ça, quand même, peut-être. Hein. Ouais. Alors, je ne connais pas tout ta pièce.
Non, enfin, bon.
Mais ouais, et puis plus tardif aussi.
C'est plus tardif.
La pièce, ouais. Ouais. Mais oui, je me suis oublié de dire. Mmh. Ouais. Ouais. Bon, il y a un artiste que, d'ailleurs, votre réflexion fait penser à un artiste que j'ai pas mis et que j'aurais dû mettre. Mais je ne dis pas. Encore qu'il doit être un peu plus tardif, je pense que les œuvres anciennes.
Ça, c'est Herbin.
Pardon ?
Herbin.
Herbin, absolument. Herbin. Auguste Herbin, bravo.
J'ai visité le musée.
Pardon ?
J'ai visité le musée.
Ah ben voilà, au Cateau-Cambrésis alors, c'est ça. Musée de Matisse et Herbin.
Voilà.
Donc ça, c'est une œuvre de Herbin, effectivement. Je trouve que ça fait beaucoup penser à l'œuvre que je vous ai montrée tout à l'heure, mais dans les grilles, vous rappelez ? Celle où on a parlé de locomotive, de dessin.
Oui,
c'est ça, mais en couleur. Ouais. Toute une seule... Et en même temps, ça fait un peu penser à l'œuvre de Kandinsky, c'est un catalogue de formes. Oui. Ouais.
Mais lui, il associait forme, couleur et son. Quoi que là, il y a des triangles rouges et des ronds rouges, mais.
Parce que effectivement, le Cateau-Cambrésis hein, a été le lieu de naissance de deux artistes importants, Henri Matisse, c'est pas rien, hein, et Auguste Herbin. Ce qui fait qu'au Cateau, il y a aujourd'hui des œuvres des deux artistes. On dirait pas comme ça. Hein. Ah. Là, oui. Ouais, ouais.
Je dirais simple.
Ouais.
C'est la répétition.
Oui.
En bas, il n'y a que des noirs et au-dessus des couleurs.
Oui.
Presque comme un catalogue. Hein.
Oui.
Noir, bleu, noir, jaune, noir, rouge, noir, vert.
Oui, pour le rapport entre bleu, noir, jaune.
Oui. Oui. On parlait d'échantillons de tissu tout à l'heure, c'est vrai, c'est un peu ça, là. On a l'impression de...
C'est décentré.
Moi, je suis un marchand de couleurs.
Oui, oui, oui. Une boîte de couleurs, vous savez.
Oui, c'est qu'on a eu.
Oui, quand on était petit, encore. Enfin, je parle là pour ma génération, il y a des plus jeunes aussi. Ça, je ne sais pas, par rapport à d'autres choses qu'on a vues très géométriques, ça...
C'est quelqu'un de différent du précédent ?
Moi, je trouve, oui.
Non, mais c'est pas deux fois le même artiste.
Ah oui, non, c'est pas le même, deux fois le même. Moi, c'est un artiste que je qualifierais de plus conceptuel.
C'est encore plus basique.
Vous voyez ?
Pardon ? C'est plus un délo, ça.
C'est ça. C'est, alors, en même temps, l'idée est un peu genre, de montrer un concept, de le mettre en peinture. Alors, comme une fois, un concept, hein, on ne peut pas s'intéresser de voir dans un concept une traduction plastique, mais on est, moi je trouve qu'on est très loin, même si ça peut, de quelqu'un comme Mondrian, par exemple. Je trouve qu'il y avait chez, enfin il me semble, hein, chez Mondrian, quand on voit un peu, d'ailleurs vous avez... On a tous divagué sur mon gaillant, tiens, ça ressemble à ceci, ça. Voilà, on avait. Hein. Là, on est dans couple, espèce de choses très conceptuelles.
Non. Moi, je suis devant un clavier de piano.
Ouais.
Les noirs et les blanches. Ah, les noirs,
de la musique en regardant ça.
Pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas.
Moi, j'ai envie de faire défiler pour voir d'autres couleurs.
Oui, c'est ça, c'est un des côtés conceptuels, justement. C'est-à-dire, on a envie de voir la suite des catalogues. C'est un côté systématique. Un art systématique, un système. Noir, couleur, blanc, noir, couleur, blanc, noir, couleur, blanc, c'est un système. Et est-ce qu'un système ne peut pas faire de l'art? Ça va être le grand travail des conceptuels de la fin du siècle. On est là au début de ce courant-là, où on dit... Il va y avoir un grand artiste français qui est mort il y a maintenant quelques années, qui s'appelle François Morellet, hein, qui va être un artiste conceptuel. C'est-à-dire qui dit, bah, tiens, je vais faire 1, 2, 3, alors je mets un carré là, ensuite j'en mets un carré après, puis un autre deux carrés après, un autre trois carrés après, ce qu'on appelle l'art conceptuel, ou l'art systématique. On prend un système, et le système est une œuvre. Voilà. On est un peu dans cette idée-là, vraiment aux origines de cet art-là.
On a fait ça en musique aussi.
Aussi, bien sûr, absolument, absolument. Et finalement, c'est un peu ça, hein, l'œuf dont vous parliez d'ailleurs tout à l'heure. Hein. C'est les poupées gigognes, hein, carré dans le carré dans le carré. Hein.
Mais décentré.
Décentré, oui.
Est-ce que le petit carré est loin ou proche?
Ben, ça dépend comment on regarde.
Il y a un côté aussi, ça ne vous rappelle pas ça?
Cinétique.
Voilà, ça rappelle l'art cinétique dont on a parlé en sculpture, rappelez-vous.
Oui.
Hein, alors, ça peut rappeler quelqu'un, que, alors ça n'est pas lui, mais comme Vassarelli, hein,
oui,
qu'on connaît bien en France. Oui. Voilà. Mais c'est l'art cinétique, c'est une espèce de jeu. Ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que le rouge est devant et derrière? Au bout d'un moment, on a presque mal aux yeux de se demander comment ça se passe.
Albert.
Joseph Albert, bravo. Je termine un peu plus vite parce que mine de rien, ça passe. Et là.
Gestuelle.
Hein, on est exactement dans la même. Décidément, vous voyez à quel point l'abstraction peut être diverse. Là, on est dans quelque chose d'abstrait, de complètement gestuel. On est un peu dans une sorte de peinture pollockienne. Mais plus, là, on sent que c'est pas un truc mis par terre avec chaud des grands jets d'un mec qui est là et qui va.
Voilà.
Là, c'est fait sur un tableau devant la personne qui peint. Oui, il y a de ça. Mais là, encore une fois, c'est si on veut se raccrocher aux branches de nos présentations. On n'est pas obligé. Hein. On peut y voir simplement des traits verts et bruns sur un fond clair.
On va être énervé.
Pardon. Peut-être elle. Peut-être elle. Allez, quelques derniers.
C'est pas Van
Nouvelle. C'est Van Nouvelle. Oui, absolument. C'est Van Nouvelle.
Des fonds de couleurs,
c'est ça. Là, on voit bien qu'on est dans une peinture abstraite. Vous savez, ça rappelle un peu ce qu'on a déjà dit, ou là, on se répète un peu. Hein. On est dans une peinture abstraite avec des formes, des couleurs. Alors là, il y a de la nuance, il y a voilà, une sorte de poésie qui est plus immédiatement, je vais dire, perceptible. Vous voyez ?
Oui, puis il y a de l'ouverture.
Oui, voilà, c'est vibrant.
Un mélange de couleurs.
Oui, on peut se raccrocher à des choses voilà, qui est plus. Moins. On est rude et radical que d'autres choses, mais c'est très beau. Bon, quant au suivant, alors vous le connaissez tous.
Rothko.
Voilà, Rothko. Depuis qu'il y a eu là, récemment la fondation Vuitton, hein. Vuitton. L'expression Rothko, ben, on le connaît tous. Hein. Donc Marc Rothko, qui est cet artiste originaire de Lettonie, je crois, mais qui a vécu en partie aux États-Unis, il a fait sa carrière, vous voyez. Donc ça, c'est une œuvre de Marc Rothko. Bon, là aussi, qu'est-ce que ça vous suggère, vous dit, vous...
Dans mon geste.
Ouais. Alors, lui, c'est pas du tout ce qu'il voyait. Lui, qu'est-ce qu'il voyait, lui, Rothko, là-dedans? Le but, c'est quoi, pour lui?
Oui, la couleur. Oui, c'est le travail de la couleur.
Oui, couleur. Le néant ou peut-être l'inverse?
Non, les vibrations du monde. mystique un peu.
C'est ça, Rothko est un super mystique. Hein. Ce qu'il voit là, c'est Dieu aussi. Ah, c'est absolument Dieu. Là, il est con, c'est un mystique. Ce que vous avez là, c'est un mandala tibétain. C'est un mandala tibétain, ce que vous avez. Rothko, c'est un type qui est marqué par le mysticisme. D'ailleurs, il a fait à Dallas, hein, une fameuse chapelle, après Madame de Milly, dont on a déjà parlé, la chapelle Rothko, avec toute une série d'œuvres. Rothko, c'est lui, ce que vous avez là, c'est une icône. C'est une icône. C'est pas du tout un tableau avec un carré, non, ça c'est. C'est une icône. Ce que vous avez là, c'est quelque chose. D'ailleurs, vous voyez ce espèce de flou, cette évanescence, qui peut effectivement faire penser au néant, mais un néant qui serait un néant, non pas destructeur, un néant, ou au contraire, vous voyez, une sorte de surmoi. Enfin, voilà. C'est ça, Rothko, c'est ça, une espèce de. Ces formes qui s'évanouissent. Alors là, pour le coup, vous n'avez pas, c'est pas Mondrian, quoi. Il n'y a pas. Vous voyez,
on n'a pas d'être. C'est vrai que quand on est devant un Rothko, on est scotché. Hein.
Ah oui, oui, et on l'évite.
Bon.
En un seul mot.
Il faut pouvoir.
Oui, oui. Allez, quelques derniers.
Vera da Silva.
Oui, voilà, vous connaissez Vera da Silva, hein, absolument. Bravo. Voilà une note de Vera da Silva. Alors, il y a eu une grande exposition à Dijon tout récemment, vous avez simplement vu au Musée des Beaux-Arts, hein, puisqu'il y a à Dijon une très grosse collection d'œuvres de Vera da Silva, hein, donc une peintre d'origine portugaise, mais qui a beaucoup travaillé en France. Voilà. Là, vous voyez, on est finalement, ça fait beaucoup penser à ce que j'ai montré de Soulages tout à l'heure, c'est très, très la peinture abstraite française, vous voyez, c'est-à-dire des choses comme ça, qui sont encore très. Il y a beaucoup de nuances, beaucoup, on peut y voir des choses, c'est la grande tradition de la peinture abstraite en France.
C'est figuratif aussi.
Oui, c'est un peu comme Stahl.
On voit des colombages à la fille.
Oui, oui. Ben là, ça s'appelle la bibliothèque, si ma mémoire est bonne. Enfin, je ne sais plus si c'est celui-là que ça s'appelle. Mais vous avez raison, c'est figuratif. Vera da Silva a toujours eu une sorte de trame figurative pour ses œuvres.
Il y a une diagonale.
Si pardon.
Il y a une diagonale avec des choses plus sombres à gauche.
Oui, oui, oui.
Et plus claires à droite.
Mais on dirait des constructions métalliques, oui, 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 oui. Absolument, il y a un côté rue, tout ça, vous avez raison.
Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à voir.
Pardon ?
Il y a beaucoup de choses à voir, là aussi.
Beaucoup de choses à voir, on n'arrête pas d'être sollicité. C'est l'opposé. Décidément, on voit bien ce que c'est que l'abstraction, il y a plein de choses différentes.
Il y a du volume, là.
Ouais. On peut y voir ça et on peut y voir un grand vide aussi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, une peinture comme ça est faite, le type qui fait ça, souvent, fait de la peinture avec l'inverse d'un. Pas de.
C'est un pochoir.
L'inverse du pochoir.
C'est ça. Un cache, une réserve.
Voilà, c'est la réserve, voilà. C'est-à-dire qu'il met souvent un truc, il peint par-dessus, puis il l'enlève.
D'accord.
Vous voyez ? Une idée de ce peintre ?
Non.
D'ailleurs, là, c'est un peu pareil.
Ça, c'est en taille.
En taille, absolument. C'est un peu pareil parce que. Comment c'est fait, ça ?
Je dis.
Allez-y.
Pli.
Voilà.
Pli, c'est tissu parce que c'est souvent des bâches.
Ouais.
Il plie ses tissus, il peint des morceaux qui n'ont pas été pliés.
Voilà.
Voilà.
C'est ça. C'est-à-dire que il fait une espèce de tasse, oui, il peint, puis en dépliant, évidemment, là où il y avait des plis, la peinture n'est pas arrivée, donc c'est du blanc, quoi. C'est une vieille technique, d'ailleurs, qui existe en Afrique, ça a été en Afrique du Bogolan.
Les tissus de Corogo sont comme ça.
C'est ça, absolument. Absolument. Hein, c'est une vieille technique que là, il reprend à son compte, si vous voulez. Et il a fait aussi avec des choses en trame, etc. Mais il a commencé par des choses assez baroques.
C'est de l'origami.
D'une certaine manière.
Mais ça va penser au Vatus.
Oui, c'est ça, absolument, absolument. Absolument. C'est le dernier. Hein.
Il y a encore un système.
Voilà, c'est effectivement une œuvre conceptuelle, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un système, hein. on est dans un mondrianisme, mais qui aurait, ce qu'il n'y a pas chez Mondrian, on a trouvé effectivement une sorte de système, si vous voulez, intellectuel pour créer l'œuvre.
Mondrian, il
n'emploie
pas de
verbe.
J'en
vois pas, effectivement. C'est plutôt rouge, jaune, bleu.
Oui, et puis il n'y a pas toutes ces couleurs.
Non, non, puis il n'y aurait pas d'orange, des choses comme ça. Ça c'est pas. Alors je vais peut-être vous passer, c'était le dernier là, hein. Je vais peut-être vous passer maintenant, je vais me rasseoir. Voilà. Voilà, que vous ayez les noms pour tout le monde. Hein. Alors vous en avez trouvé beaucoup, hein, c'est-à-dire. Hein. Kupka, hein, ça c'est bon. Théo van Doesburg, qui est un artiste du Bauhaus, etc., hein, qui a donc effectivement beaucoup travaillé dans ce genre de contexte. Hein. Alors le suivant, vous savez, le drapeau noir et blanc. Eh oui. Donc quand vous parliez d'architecture, etc. Sophie Tauber Harp. Hein. C'est la femme de Hans Harp. Hans Harp, le sculpteur dont on a parlé dans la deuxième séance, son épouse, qui a d'ailleurs été également enseignante au Bauhaus, c'est Sophie Tauber. Le fait qu'elle ait été en séance au Bauhaus me montre bien, explique aussi des peintures comme ça. Hein. Bauhaus faisait des tasses, des chaises, des tout ce qu'on veut, des bâtiments. Voilà quelqu'un qui enseigne, pour qui, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, on dirait une locomotive. Ben oui, parce que la vie peut être faite d'œuvres d'art. On n'est pas obligé de boire son café dans une tasse moche, autant qu'elle soit belle. Jean Hélion, hein. Alors Hélion, on le connaît plus pour les œuvres plus tardives qui sont figuratives, mais il a fait comme ça beaucoup d'œuvres très abstraites au départ, et voilà, une œuvre très tôt, hein, et très intéressante.
Il va y avoir une expo, d'ailleurs.
Ah, c'est possible.
À Paris, oui.
Ah ouais.
De mars jusqu'en août.
Ah, bien.
Et il y a Hélion aussi au musée Zerbos.
Ah, très bien. Et alors à Paris, ça aura lieu où? Vous êtes de la ville de Paris, peut-être, d'Armenay.
Oui. C'est exceptionnel, hein,
oui, parce oui.
Qu'il est rarement exposé aussi.
Oui, 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 c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Oui, non, non, très peu, pas assez montré.
Il
pas assez...
a été ami avec Mondrian. Hein, mmh. Ça...
Au départ, oui. Mmh. Très bien. Bon, bah, Delaunay, ok. Kandinsky, c'est réglé. Et Mondrian aussi. Hein. Par contre, le suivant, vous savez, celui avec des formes sculpturales un peu...
Oui.
Le Corbusier. On oublie que Le Corbusier a été aussi peintre. Hein. Donc c'est important de le dire. Et alors, l'œuvre suivante, tu sais, cette œuvre un peu dans les marronnasses, etc. Hein. C'est intéressant parce que ben, je crois que c'est toi qui lisais, qui parlait d'art premier, etc. C'est exactement ça. C'est de Joaquim Torres Garcia, qui est un, je crois que c'est, Montevideo, c'est au Venezuela, non? Ou Paraguay ou Uruguay, je ne sais jamais. Enfin, un de ces pays-là, voyez. Comme un bon européen, je ne connais pas ma géographie. Et voilà, donc, voilà, c'est effectivement de l'arinca, si vous voulez, hein, mais contemporanéisé. Quoi. Donc c'est passionnant. C'est un artiste extraordinaire, quoi, parce que c'est effectivement quelqu'un qui prend en charge une sorte de tradition préhispanique en la contemporanisant. Hein. Quelqu'un qui était proche de gens comme Mondrian, là aussi. Vous voyez, ça peut paraître étonnant. Mais en fait, voilà, c'est
pas
ça.
Sur carte.
C'est sur carton, là. C'est une petite œuvre. Hein. On aurait bien chez soi. Enfin, bref. Bah, Pollock, on en a parlé. Hein. Gorin aussi, c'était marqué.
C'est beau, ça.
Et de, oui, c'est très beau. Et de Staël, bah, voilà. Quant à Manessier, c'est vu. Et Soulage aussi. On en a trouvé des choses. Hein. En fait, vous voyez, il n'y a pas... Hein. Klein, ça roule. Et Herbin aussi. On est allé au musée de Cato Cambresis. Voilà. Alors là, par contre, on a séché un peu, c'est Eloise Kelly, qui est un artiste américain. Vous savez, les États-Unis ont eu, surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, un très grand rôle, notamment dans l'abstraction et justement l'art conceptuel. Hein. Je crois qu'on avait parlé de Donald Judd dans les sculpteurs. Non, on n'a pas parlé. Non. Don Judd, on a. Je confonds plusieurs coups, sans doute. Voilà. Et Joseph Albers, on en a parlé tout à l'heure. Quant à l'arbre de Noël, c'est Joan Mitchell, une américaine gestuelle, hein, une sorte
de Pollock féminin, pardon, même catégorie, mais, et Bram Van Velde, que vous aviez effectivement reconnu, de même que Marc Rothko. Et Vera da Silva. Hein. En fait, vous avez quasi reconnu tout le monde. Hein. Pas le suivant, qui est Sam Francis. Hein. C'est Sam Francis qui, on l'a vu, hein, cache des choses et voilà. Et ensuite enlève, ce qui donne des choses avec une sorte de profondeur un peu coupée, comme ça, très étrange. Un œuvre typique de lui, ça. Et Simon Taille. Et puis enfin, Richard Paul Lohse, qui est un Suisse et qui est un des tenants de ce qu'on appelle l'art concret suisse, hein, qui est une école d'abstraction géométrique où il y a plusieurs personnes, dont une femme qui s'appelle Verena Löwensberg. Et voilà. Voilà, donc c'est-à-dire, à la fin, je voulais vous passer ça, une œuvre de Jacques Tonponin qui s'appelle La profondeur. Moi, pour avoir, j'aime infiniment cette œuvre, donc je vous la. Et je vous la montre aussi. Alors, je pense que ça répond à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, c'est une époque très différente de celle qu'on a eu tout à l'heure. Et en plus, ça s'appelle La profondeur. Et je trouvais que c'était assez beau pour terminer cette série de cours, quoi. Et notamment celui consacré à l'abstraction. Parce que, justement, c'est quelque chose. On a l'impression d'une sorte d'abysse, si vous voulez, peut-être. Enfin, et qui peut-être peut montrer que ben, cet art-là, que souvent, en particulier en France, on a un peu de mal à regarder, etc., ben, est en fait un art très, très profond. Il ne faut pas s'interdire d'aimer l'abstraction, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison de se couper les ailes, hein, et de ne pas aimer des œuvres qui ne représentent rien, mais l'art n'est pas fait pour représenter quelque chose. Donc voilà.
C'est son truc en plus.
Un peu. Un peu. On dirait un boa, oui. Et ben voilà, bravo, vous avez été superbe. Et on se retrouve peut-être la saison prochaine pour d'autres aventures. Mais lesquelles ? Là est la question.